enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On est proche de l'été, et chaque été, il y a le beau temps qui vient avec, et avec le beau temps viennent toutes sortes de réactions, notamment des réactions de relâchement. À cause du fait que face à la tentation, on n'a pas des positions claires et déterminées avant qu'elle n'arrive. On lira ensemble deux textes et nous verrons quatre clés pour vaincre la tentation. Alors vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Si des fois par endroit, je me répéterai dans ce que j'ai dit la dernière fois, parce que je crois que la répétition est la règle d'or de la pédagogie. Amen. 1 Corinthiens 10. Lisons ensemble. Frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, avec l'été arrivant, les tenues légères des unes et des autres, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et puis il rajoute derrière une bonne nouvelle ce matin. Aucune tentation ne vous est survenu qu'elle ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je vous lis cette phrase-là en français courant. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Amen. Un deuxième texte, un simple verset. Nous lisons ensemble 2 Timothée 2, 22. Et je voudrais qu'on regarde les deux verbes dans la même phrase. Parce qu'il y a là-dedans un principe profondément biblique qui est inscrit. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On retient juste, fuit d'un côté, mais l'autre côté, c'est recherche. D'accord? Revenons à notre thème, vaincre la tentation. Qui peut dire qu'il n'a jamais été tenté? On a tous tenté inévitablement, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une issue et une bonne issue possible à nos tentations. On n'est pas obligé de la subir et de céder et de s'écrouler et constamment de faire le cercle vicieux de la tentation, de céder, de l'échec et de la culpabilité. Et puis on revient de nouveau à plat de couture devant le Seigneur, pardonne-moi Seigneur, et puis deux jours après, on recommence. Non, il est possible d'en sortir et d'en sortir victorieux. Dieu a promis qu'elle ne serait jamais au-delà de nos forces. Cependant, il y a des choses à faire de notre part. Voilà quatre clés. Première clé, recentrer son attention sur autre chose que sur la tentation. Vous avez déjà vu ces régimes amaigrissants qui font du yo-yo? La raison profonde pour laquelle ça ne marche pas, parce que certains nombres de régimes font ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire concentrer l'attention des gens sur ce qu'ils mangent, ou plutôt ne devraient pas manger. Alors ils essayent de dire, non, je ne mangerai pas ça. Et puis comme par hasard, ce jour-là, ils passent dans la zone piétonne devant une pâtisserie. Et crac, boum, on a craqué. Et plus ils y pensent, moins ça marche. Lorsque vous êtes tenté, première règle du jeu, recentrez votre attention sur autre chose. Si vous voulez maigrir, c'est très simple, faites du sport. Activez-vous, bougez-vous, pensez à autre chose. Incroyable, mais vrai, mais la Bible ne parle nulle part de résister à la tentation. Elle dit de résister au diable, oui, mais jamais à la tentation. Vous pouvez difficilement résister à une mauvaise pensée. Le meilleur moyen de la neutraliser, c'est de penser à autre chose. Combien de gens, des fois, chez eux, à la maison, ça ne va pas très fort. Ils ont des problèmes avec un fils, une fille, un époux, une conjointe. Et ça les travaille, ça les machine. Arrivés au boulot, ils sont tellement pris par le travail qu'ils ne pensent plus au fils, à la fille, etc. Et tout à coup, ils ont passé une bonne journée. C'est un principe biblique. Fuis d'un côté, recherche de l'autre. Autrement dit, recentre ton attention sur autre chose. Toute tentation commence par une pensée. Ne combattez pas la pensée, changez de canal. Au lieu de rester devant le film qui est un peu à l'eau de rose, très rose, rose, bonbon, ce que vous voulez, ben changez de canal. Pensez à autre chose. Un bon match de football, par exemple. Vous savez, c'est... Il n'y a pas pire alcoolique qui veut s'arrêter que celui qui dit « Ouais, plus jamais ». Et tous les soirs, tout à coup, comme par hasard, il passe devant le bistrot qui ramène à la maison et là, il s'arrête là et voilà. Mais au lieu de penser à l'alcool, mon frère, pense à ta chérie. Et demande-toi qu'est-ce qui lui ferait plaisir ce soir. Un bouquet de fleurs. Ou tiens, le robinet qui fait « Va en acheter un jet castor, reviens à la maison, fais le robinet et pendant ce temps, tu n'iras pas au bistrot ». Et tu n'auras rien bu. Elle va rentrer, elle va être contente. Mon chéri s'occupe de moi et de ma maison. Ah, génial. En plus, l'alcool. Non, il ne sent pas l'alcool. Ah, super. Je vais lui faire un bon petit plat ce soir. Amen. Première règle du jeu face à une tentation, recentrez votre pensée sur autre chose. Ignorer la tentation est plus efficace que de la combattre. Et quand la tentation vous téléphone là, raccrochez-lui au nez. Quittez physiquement une situation. Ne vous mettez pas dans une situation tentante. Restez en dehors. Coupez le téléviseur. Réduisez l'accès à Internet. Évitez les groupes de médisance. Les gens qui vous parlent toujours en noir. Tout est toujours noir et sombre. Et vous n'y arriverez jamais. Et à la fin, vous baissez les bras. Bien-aimés, votre monde des pensées est l'organe le plus vulnérable. La bataille contre le péché est gagnée ou perdue au niveau de vos pensées. Et ce qui va réussir à capturer vos pensées, votre attention, vous captivera, produira des émotions, et vos émotions vont vous produire des envies, et à un moment donné, vous allez croquer. C'est pour ça, la Bible enseigne de remplir nos pensées d'autres pensées. Pas de résister à la mauvaise pensée, mais de remplir, de changer de pensée, changer de canal. Alors remplissez vos pensées par des pensées issues de la parole de Dieu et des bonnes pensées tout court. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, « Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. » Autrement dit, quand tu es tenté, change de canal, change de direction de pensée et envoie la pensée d'autre chose. Amen. C'est pourquoi je dis ça. Proverbe 4, 23 dit, avant toute chose, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Si tu laisses ta vie intérieure être contaminée par tes pensées noires, des pensées de jalousie, des pensées d'adultère, des pensées de... Jamais on n'y arrivera, c'est pas la peine, c'est peine perdue, etc. À un moment donné, ta bouche va le dire. Et ta bouche est comme le gouvernail d'un bateau. À un moment donné, tu prends dans la direction de tes paroles. Et tu mangeras le fruit de tes paroles. Mais avant les paroles, il y a les pensées. Contrôle tes pensées. 2 Corinthiens 10, 5 dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Nous ramenons captive toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et ça, mes amis, vous avez déjà vu. J'ai rendu compte pendant que je prêche, c'est un exercice à vie. D'accord ? Deuxième, je dirais, clé, et celle-là n'est pas simple, c'est révéler ses luttes un ami ou une amie, ou à un groupe de confiance, à des gens de confiance. Ecclésiaste 4, 9 dit « Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. » Et le drame de beaucoup de croyants dans leur lutte contre le péché, c'est qu'ils se retrouvent tout seuls. C'est qu'ils n'ont pas développé au fil des années des amitiés profondes avec des hommes et des femmes solides en Christ, envers qui ils ont une certaine ouverture d'esprit et devant qui ils peuvent paraître vulnérables. On a tous envie que tout le monde pense de nous qu'on est le meilleur et le plus beau, que le péché ne nous atteint jamais. Mais non, surtout pas moi, pasteur. Bien-aimé, si vous perdez régulièrement la bataille face à une mauvaise habitude, par exemple, arriver en retard, par exemple, rentrer tard le soir et mettre le téléviseur sur une chaîne bizarre, par exemple, boire un verre de trop le dimanche après-midi. Oh, vous n'êtes pas saoul, mais l'alcotest révélera quelque chose de particulièrement intéressant. Par exemple, une dépendance, etc. Eh bien, vous êtes prisonnier du cercle vicieux de la bonne intention, de l'échec et de la culpabilité, et vous ne vous en sortirez pas tout seul. L'illusion que le diable veut vous faire croire, c'est que vous allez vous en sortir tout seul. Et je vous dis, c'est faux. Est à plaindre celui qui est tout seul. Et parfois, on a tellement peur de paraître ce qu'on n'est pas, qu'on s'enferme dans une prison de solitude. Et à la fin, on est aspiré vers le fond. Et tout à coup, vous avez des gens qui partent de l'église, n'avaient aucune raison, idée pourquoi, mais ils ont été aspirés par le péché. Si vous voulez gagner la bataille contre des mauvaises habitudes, contre des dépendances, contre des choses que vous cachez, j'aimerais vous dire que la seule solution, ce n'est pas de refouler, mais c'est de confesser. Jacques chapitre 5 verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Je n'ai pas dit qu'il fallait voir France Info et dire « Moi je suis ceci. » Inutile de crier vos péchés sous le toit, mais de développer des relations amicales avec des gens solides dans la foi qui peuvent vous aider, qui peuvent vous écouter sans vous juger. C'est difficile des fois que d'être capable d'écouter sans juger du tout. Mais c'est libérateur pour la personne d'en face d'avoir quelqu'un en qui il a confiance et à qui il peut dire ces choses lourdes qui pèsent des fois sans qu'en face il y ait un jugement qui arrive. Alors trouvez des confidents sérieux, accrédités, capables de vous écouter sans juger et de vous donner de justes conseils spirituels. Pour être guéri, le plan de Dieu c'est ne pas refouler mais confesser, mettre à la lumière et ne pas cacher. Ce n'est que l'orgueil qui nous pousse à nous enfermer. On a peur de perdre la face. Que pensera-t-on de moi? On veut tous paraître lisse, belle cravate, costard. Mais non, on n'est pas parfait. On veut que les autres pensent que tout va bien chez nous. Première vérité, on est tous dans la même barque, on est tous tentés, on est tous des pêcheurs. Deuxième vérité, plus tu caches, plus ça va te détruire. Troisième vérité, c'est la lumière seule qui apporte la guérison. Satan va te faire penser que ta tentation est telle qu'il faille absolument la garder parfaitement secrète et cachée. Alors rassurez-vous, je n'ai pas envie de tout savoir sur tout le monde ici présent. C'est beaucoup trop lourd à porter. Je n'ai pas envie de savoir. Il y a des choses qui se règlent dans la confession personnelle avec Dieu. Mais il y a des choses qui pèsent sur les vies. Et qui des fois méritent qu'on aille trouver des confidences sérieux, des gens solides, équilibrés dans la foi, qui ont de l'avance sur vous et qui peuvent nous aider à grandir et surtout à être débarrassés. Amen. David disait, tant que je me suis tu, tant que je la bouclais, tant que je cachais mon péché. On va le dire ensemble, psaume 32. David, pendant un an, a fait semblant comme si de rien n'était. Uri était mort au combat, il a pu marier Bathsheba. En toute légalité, il avait fait tuer Uri. Et puis Bathsheba injustement. Bref. Et pendant ce temps, tout le monde pouvait penser que c'est légal ce qui s'est passé. Seul Dieu savait, Dieu Bathsheba et David savaient si c'était réellement passé. À un moment donné, Dieu va intervenir, va envoyer Nathan, mettre la lumière en plein, amener la chose en plein jour. Et David va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vie en était plus que sécheresse comme celle de l'été. Ta main se faisait lourde. Vous savez que le péché a un poids sur nos vies. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est quand même comme ça. Le péché pèse sur nos existences. Deuxièmement, tant que vous vous tairez, cela vous écrasera. Certaines sécheresses intérieures sont le résultat du péché non confessé. Mais la bonne nouvelle vient au verset suivant. Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Le fait de le révéler a amené un premier pas vers la libération. La volonté personnelle et la force de caractère ne suffiront pas. Il vous faut un groupe de prières qui vous soutiennent, vous aiment inconditionnellement et vous tiennent pour redevables. Il faut que des gens aient la possibilité de vous poser la question suivante. As-tu recommencé ? Vous savez, des fois je me dis on est trop léger avec le péché. Quand je vois avec quelle sévérité Dieu traitait le péché avant que Jésus n'arrive... Souvent, on couvre le péché par le temps de la grâce. Jésus pardonne. Oui, c'est vrai. Oui, je crois à tout ça. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais des fois, on se dit, c'est pas si grave que ça. Et puis, on ne grandit plus. On tourne en rond. On reste sur des paliers. Je me dis, mon frère, ma sœur, à un moment donné, il va falloir attaquer le problème de front. Et maintenant, je me lèverai. Et je combattrai cette mauvaise habitude. Et je ferai les pas nécessaires pour devenir libre. Amen. Enfin libre de ces casseroles qu'on traîne des fois avec le passé. Vous savez, c'est humiliant de reconnaître ses faiblesses, mais c'est le manque d'humilité qui empêche d'aller mieux. Question ardue que je vous pose. Quelle est la chose dont vous avez peur de parler et que vous prétendez maîtriser et ne pas être un problème pour votre vie? Quelle est la chose dans votre vie que vous seriez effaré de retrouver sur le vidéoprojecteur projeté par Dieu là? Bien-aimés, on prie pour le réveil. Et pour un tas de choses. Et je dis, Alléluia. Moi, je vois un Jésus qui a travaillé 3 ans au corps, ses disciples. Il les a emmenés, il les a façonnés, il les a repris, il les a... Et après, c'était prêt. Et Dieu veut nous façonner aussi. Parce que tu enverras la moisson, il faut qu'il y ait en face d'eux des gens qui soient... qu'il soit au cordeau, qu'il soit calibré, que Dieu peut envoyer, à qui Dieu peut envoyer des hommes et des femmes déséquilibrés, décalibrés, et qui peuvent aider à recalibrer. Amen. Première, je dirais, clé, c'était donc amener sa pensée à penser à autre chose. Deuxième clé, révéler ses luttes à un ami. Troisième clé, résister au diable. Jacques 4, verset 6 et 7 dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimés, parfois, on se contente de prier. Et un deuxième point qui est important, c'est celui de s'humilier. Parfois, c'est humiliant que d'aller trouver un frère, de lui dire, écoute, frère, je voudrais te parler seul à seul. Tu sais, j'ai un problème à tel niveau. Ah, c'est humiliant, c'est vrai, mais c'est libérateur. Et le troisième point, dans 2 Chroniques 7, 14, il est parlé non seulement de prier, de s'humilier, chercher la face de Dieu, mais aussi d'abandonner ses mauvaises voies, de faire l'effort de couper sérieusement, de changer de façon de faire. Récemment, j'ai vu un couple qui bat de l'aile. D'abord, j'ai vu la femme pendant une heure toute seule, elle m'a partagé ses difficultés et j'ai vu les effets dans sa maison. Elle me parlait de son mari, etc. Quand le mari est rentré, il m'a embrassé. Bonjour frère, super, super. J'ai dit, c'est super de te voir frère. Au bout d'une demi-heure, je lui dis, frère, si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais, tu risques un jour de voir ta femme prendre ses clics et ses claques et se tirer. Il faut que tu changes de voie. Il faut que tu agisses autrement. Elle sûrement aussi, mais toi, montre l'exemple. Change de voie. Abandonne. Et après, il est marqué, j'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai le pays. S'humilier, se soumettre à Dieu. Après s'être humilié nous-mêmes et soumis à Dieu, ne restons pas à terre, mais battons-nous. Il est marqué dans le Nouveau Testament que La vie du croyant est faite de une vie de lutte et de combat contre des puissances démoniaques aussi. Mais l'ordre des choses, c'est prise de conscience de mes faiblesses, erreurs, péchés, mise à la lumière, abandonner mauvaises voies et puis résister au diable. Alors comment ? En mettant l'armure du chrétien. Le casque du salut d'abord. Le casque du salut, c'est déjà être sûr que je suis sauvé. Avoir une démarche personnelle avec Jésus. Être né de nouveau. Avoir reçu le Christ en soi. Et recevoir l'assurance du salut. Je suis sauvé parce que j'ai mis ma foi en celui qui a payé pour moi à la croix. Et ma pensée, je la laisse protéger par la pensée de Dieu, par la vie de Dieu en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus vient habiter en nous. Il y a des désirs nouveaux qui montent, mais c'est des pensées nouvelles qui montent dans nos cœurs et dans nos pensées. Deuxième point, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas dit « j'ai pas faim ». Quand le diable est venu, il a dit « écoute, toi, c'est le fils de Dieu, change donc les pierres en pain ». Et Jésus n'a pas dit « oh, j'ai pas faim ». Il avait faim. Mais il a dit, comme ça, de but en blanc, « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Autrement, il a changé sa pensée de canal. Mais il avait au fond de lui les balles qui étaient prêtes à être envoyées par le pistolet de la foi. Amen. Et à trois reprises, le diable est venu. Et à trois reprises, Jésus a simplement décoché une nouvelle flèche. Amen. Et ça, mes amis, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Encore faut-il remplir le PC de nos cœurs avec la pensée de la parole de Dieu. Qui de vous a un ordinateur à la maison ? Qui est-ce qui a déjà vu un ordinateur et qui a déjà utilisé un ? Il y en a du monde. Eh bien, vous le savez comme moi, un ordinateur ne vous redonne que ce que vous lui avez injecté. Si vous voulez être prêt face au diable, il faut d'abord que vous injectiez la pensée de Dieu. Alors commencez par apprendre par cœur des versets. Allez, pour cette année, première année, un verset par mois. L'année prochaine, deux versets par mois. L'année d'après, chaque semaine un verset. Et vous serez équipés. Amen. Quatrième et dernière clé. Prenez conscience de votre vulnérabilité. Je me permets de réinsister là-dessus. Ne soyez jamais trop sûr de vous-même. Ne dites jamais « ça, je ne le ferai jamais ». Vous n'en savez rien. Il suffit des temps et des circonstances et chacun d'entre nous est capable du meilleur comme du pire. Comment expliquer que des bons pères de famille, des braves pères de famille ont fait la dernière guerre mondiale et ont fait des choses horribles, sont rentrés à la maison, ont changé de veste et sont redevenus des braves pères de famille. Il a suffi que les temps et les circonstances changent. D'un temps de paix civile, on est passé à un temps de guerre. Et tout à coup, on était capable de faire le pire. Des bons pères de famille, autant des Allemands que des Français. Bien-aimés, ne soyez jamais trop sûrs de vous-même. Nous l'avons lu ensemble avant, dans 1 Corinthiens 10, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Jérémie 17, 9 dit la chose suivante, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. » Le cœur de l'homme est tortueux, virgule, par-dessus tout, point. Autrement dit, vous comme moi, nous sommes capables d'être trompés par nous-mêmes. Jacques 2, 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Vous savez, des fois les raisonnements sont alléchants, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils ont l'air imparables. Et pourtant, certains sont faux. Et face à la justification au péché, je vous assure que le cœur humain a de quoi se justifier. Ah, si ma femme m'aimait plus, je ne serais pas allé voir ailleurs. Et on peut continuer, la liste est longue. Bien-aimés, ne pensez pas que vous êtes au-dessus de tout cela. Ne baissez jamais la garde. Et face à la période estivale qui arrive, j'aimerais vous dire, ne baissez pas la garde. Et même si vous avez des succès, et même si tout marche bien chez vous, j'aimerais vous dire justement, parce que tout va bien chez vous, ne baissez pas la garde. Voyez-vous, Samson a été le plus fragile, vous savez quand ? À chaque fois qu'il avait atteint des succès et des sommets spirituels. Il venait de battre les Philistins à plate couture avec une mâchoire d'âne. L'autre jour, il était allé dans une ville, il a arraché les montants et les battants d'une porte, il l'a porté sur une épaule, il a ravagé le blé et l'orge des Philistins avec 300 renards à qui il a allumé la queue et qu'il a envoyé dans les champs. Il venait de faire ça. Il a été... Enfin, écoutez voir, j'ai déjà attrapé 300 renards. C'est pas rien, hein. Ensuite, aller mettre le feu à une queue de renard. Non, mais attendez. Il venait de faire ça le quart d'heure d'après. Il est allé voir une fille de joie. Autrement dit, même si maintenant vous surfez sur une vague de sommets spirituels ou de réussite conjugale ou de réussite professionnelle, j'aime vous dire, ne baissez jamais la garde. Ne baissez jamais la garde. Voyez-vous, chez Samson, le diable a travaillé pas juste sur un ou deux coups. Il a travaillé sur la durée. Ça a duré des années. Et je suis persuadé que Samson s'est repenti et re-repenti. Mais finalement, parce qu'il n'a jamais brisé, coupé, cherché une solution, à un moment donné, le diable a tiré le filet. Et l'organe qui lui a servi d'accès au plaisir, ses yeux, on les lui a crevés. Et lui qui était juge sur les autres, qui dominait les autres, dont la main était lourde sur les ennemis, il est devenu la marionnette des ennemis. Amenez-nous Samson pour la fête de Dagon, qu'il fasse un peu le pitre pour nous, qu'on se moque de lui. Bien-aimés, ne baissez jamais la garde. Soyez conscients de vos terrains vulnérables et ne baissez jamais la garde. Ne vous placez pas inutilement dans une situation de tentation. Évitez-les et rappelez-vous, il est plus facile de rester en dehors d'une tentation que d'en sortir. Alors je sais bien, être inévitable, mais il y a celle qu'on peut éviter. Celle, on se met nous-mêmes dedans. Évitez celle-là et les autres. Il vous donnera la force de vous en sortir. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 2 en français courant dit « Par conséquent que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. » La version amplifiée dit, écoutez bien, « Ne soyez pas naïfs et n'ayez pas trop confiance en vous-même. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous pouvez chuter comme n'importe qui d'autre. Oubliez votre assurance, elle est inutile et cultivez la confiance en Dieu. Amen. Je résume et je conclue. Nous serons tous tentés un jour ou l'autre, inévitablement. Être tenté n'est pas forcément péché. C'est céder qui est un péché. Le mécanisme, c'est d'abord le désir en moi, bon ou mauvais. S'il est bon, généralement, c'est parce qu'on essaie de l'accomplir de manière illégitime qui devient mauvais. Deuxièmement, c'est le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Troisièmement, c'est la séduction. Tu ne mourras pas. Allez, une fois, c'est pas grave. Personne n'y verra rien. Hein ? Tu étais en vacances à l'autre bout du monde. Vous savez, le péché, c'est comme être enceinte. Tôt ou tard, ça se verra. Hein ? Amen. Quatrième point, on est séduit, on est trompé et on mord à l'hameçon. Alors, quatre clés bibliques pour s'en sortir et pour vaincre. Je voudrais que nous devenions des gens victorieux. Premier point, appliquer le principe du remplacement. Recentrer ses pensées sur autre chose. Fuis les passions de la jeunesse. Oui, mais je vais où ? Mais recherche la justice, la paix, la joie avec ceux qui marchent droit. La nature a horreur du vide. Alors tu refuses quelque chose, ben remplis-le par autre chose de bon, de juste, de droit. Amen. Deuxième point. Si tu chutes constamment sur un point donné, eh bien, va voir quelqu'un de sérieux, de solide, de plus avancé en toi. Un pasteur, un ancien, etc. Ou des gens accrédités. Révèle tes luttes. Des gens qui peuvent t'écouter avec confiance, qui vont t'écouter sans te juger et t'amener plus loin. Troisième point, résiste au diable. Quatrième point, je me permets de le répéter, prends conscience de ta vulnérabilité. Tu n'es pas au-dessus du lot. Les pasteurs ne sont pas au-dessus du lot. Il y a des gens qui m'ont dit il y a 5-6 ans en arrière, Claude, on te voit faire ça, fais attention à cela. Et j'ai appris au fil des années à écouter et à appliquer ce qu'on me dit. Vous savez pourquoi ? Parce que je me protège de moi-même. Amen. Bonne nouvelle, face à nos tentations, il y a toujours une issue. Je relis ce texte de 1 Corinthiens 10, verset 13. La bonne nouvelle, frères, sœurs. 1 Corinthiens 10, verset 13. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Mais Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Amen. Et Jacques 1, 12 dit, écoutez ce qu'il dit là, « Heureux est l'homme ou la femme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il ou elle recevra la couronne de victoire, la vie éternelle. »
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.